Bienvenue ce matin, c'est le dernier message de notre série d'été sur découvrir Jésus dans l'Évangile de Jean. Combien ont été bénis par l'Évangile de Jean cet été? C'est le dernier message. Toute l'équipe de communicateurs qui s'est joint à moi, il y a 8 personnes qui ont été bénies, qui applaudissent en ce moment, les 1000 autres, pas sûr. Combien ont été bénis par la série sur l'Évangile de Jean? Découvrir Jésus dans l'Évangile de Jean. Et en cette fin d'été, et aussi alors qu'on nous émergeons de cette pandémie, je veux prendre un instant pour que vous vous joigniez à moi pour remercier Dieu, pour célébrer la fidélité et la bonté de Dieu. J'ai vécu une expérience dans les dernières semaines récemment où j'ai été invité par World Challenge, l'organisation qui a été fondée par David Wilkerson. Je siège sur le CA de World Challenge et ils m'ont demandé de faire un podcast où il y avait des quelques centaines de pasteurs de partout à travers les États-Unis qui étaient en live, qui étaient ensemble. Et ils m'avaient demandé que, et le thème c'était comment votre église a-t-elle émergé de la pandémie? Comment est-ce que vous sortez de la pandémie, puis on m'avait demandé de donner un témoignage, nous, comment on l'a vécu, et après d'amener un message d'encouragement pour les pasteurs, mais j'étais de plus en plus ému pendant 30 minutes où eux partageaient. J'étais de plus en plus ému d'entendre des pasteurs de partout à travers l'Amérique du Nord et le Canada aussi, Ontario, Colombie-Britannique, des pasteurs qui disaient, on a sorti, et là, on est en difficulté financière, le soutien a baissé, les assistants sont baissés, tout a baissé, on est obligé de fermer les églises qui disaient, on ne sait pas si on va être capable de continuer, etc. J'étais de plus en plus ému en les écoutant, parce qu'après, lorsque j'ai pris la parole, je l'ai faite avec énormément de douceur, mais je veux parler à la famille ce matin, et que vous joigniez à moi pour dire, Seigneur, comme tu as été bon, comme tu as été fidèle, parce que notre témoignage, c'est que lorsque la pandémie a commencé au printemps 2020, l'année pendant presque 2 ans, 18 mois, 20 mois sans avoir de réunion ici, l'année 2020 a été notre année record de toutes nos années à Nouvelle Vie, plus que n'importe quelle autre année précédemment dans la générosité, dans le missionnaire, dans l'implantation d'église. L'année 2020 a été l'année record, mais l'autre chose qui a pris place, c'est que l'année 2021 a été record au-delà de 2020, au-delà de n'importe quelle autre année auparavant. Et là, préparez-vous, l'année 2022, on arrive au 1er septembre, en date du 1er septembre, l'année 2022 est l'année record de croissance de toutes les années de Nouvelle Vie. J'aimerais que vous vous joigniez à moi pour célébrer. Si la technologie nous permettrait peut-être, pas peut-être, sans doute un jour, ça va prendre place bientôt, mais qu'un dimanche matin, on puisse partir et commencer à aller de site en site, que vous puissiez, ce matin, en même temps qu'on est ici, voir toute l'ébullition, voir toute la vie, les centaines de personnes qui sont à Nouvelle-Vie, à La Prairie, et à Châteauguay, et à Drummondville, et à Charlevoix, et à Sept-Îles, et de voir, hier soir, j'étais à Nueva Vida, c'est une soirée seulement pour les leaders, les personnes qui veulent servir. Il y avait plus de 200 leaders hispanophones. Il y a une vie extraordinaire à Nueva Vida. Et en même temps, pendant qu'on est ici, si Dieu pourrait nous permettre de juste voir, parce qu'il y a maintenant 130 000 personnes qui sont abonnées à notre chaîne YouTube, qui suivent Nouvelle Vie. Et à partir du 11 septembre, le dimanche, le 11 septembre, les réunions du dimanche matin vont être en live, directement en ligne. J'aimerais qu'on s'arrête un instant pour dire, Seigneur, tu fais de grandes choses. Vous vous donnez une ovation au Seigneur Jésus. Il bâtit son Église. Alors, il y a une période de questions lors de ce podcast. Et bien sûr, les gens demandent quelles sont des clés ou des raisons. Eh bien, j'aimerais conclure cette série sur l'Évangile de Jean avec, je crois qu'une des raisons, et sinon la principale, mais une des raisons pour laquelle il y a cette faveur, cette croissance au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, c'est que nous sommes passionnés, focalisés, intentionnels, très focalisés, résilients et consacrés à accomplir chaque jour, chaque année, jusqu'à son retour, ensemble, ce que j'appelle la vision et le rêve de Jésus. C'est le titre du message ce matin, la vision et le rêve de Jésus. Nous sommes consacrés à l'intention divine que Jésus a pour nous, son peuple, son Église sur la terre. Est-ce que vous savez, saviez-vous, que Jésus a averti qu'il y aurait sur la terre, portant son nom, qu'il y aurait des faux adorateurs et des vrais adorateurs? et qu'il nous dit quelles sont les marques des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité dans Jean chapitre 4. Et dans Jean, c'est notre texte ce matin, mais dans Jean chapitre 4, verset 23, Jésus dit « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, zétéo en grec, que le Père désire ardemment, zétéo, le Père désire ardemment, le Père désire urgemment. Voici le peuple dont, pour prendre cette une expression qui est près de nous, voici Dieu, voici le peuple dont Dieu rêve, l'Église dont rêve, la vision et le rêve de Jésus. Ne m'écrivez pas de courriel. Le message est en ligne ce matin. Je sais que je reçois déjà des courriels de gens qui disent, ben non, voyons donc. Je sais que Dieu ne fait pas de bons rêves et de mauvais rêves, que Dieu ne fait pas de rêves de pizza. Je suis au courant. Je sais que Dieu n'est pas déçu, n'a pas d'incertitude sur est-ce que mon rêve va se réaliser ou non. Je sais qu'il est alpha et oméga, le commencement et la fin. Il est omniscient. Mais je connais, il connaît toutes choses. Mais Dieu a doté, nous a doté comme être humain et comme croyant, irrémédiablement, l'être humain est une capacité de choix, de volonté par sa vie, sa mort et sa résurrection. Nous pouvons choisir d'accomplir son rêve en nous, à travers nous, sur la terre. Est-ce que vous saviez que lorsque Jésus a souffert sur la croix, il avait une vision de nous? Que Jésus a souffert sur la croix avec la vision des rachetés, avec la vision d'hommes et de femmes pour des millénaires à venir, toi et moi, qui étaient pour accepter son amour, son sacrifice, son salut, et devenir l'accomplissement, l'incarnation de son rêve sur la terre. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la destinée qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus l'auteur et celui qui a accompli parfaitement l'œuvre de notre foi. Regardez bien, qui en vue, avec la vision de la joie qui lui était réservée, la joie de nous voir venir à lui, le servir et devenir l'expression de son rêve et de son amour sur la terre, a souffert la croix, méprisé la honte et l'injustice, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'auteur des Hébreux vient juste dans le chapitre précédent, au chapitre 11, de faire une nomenclature du temple de la renommée, de la foi, les hommes et les femmes qui ont marché pour lui, une si grande nuée de témoins. Et dans chapitre 11 de Hébreux, il dira d'eux que Dieu avait en vue pour eux. Dieu avait une vision, Hébreux 11, 40. Dieu avait une vision pour eux, un rêve pour quelque chose de meilleur. Et nous aussi, il nous appelle à marcher dans leurs traces et à chaque étape de nos vies, il n'y a aucun d'entre nous qui est exempt de rejeter, d'être intentionnel, à rejeter tout fardeau et le péché qui peut nous envelopper si facilement et faire en sorte qu'on dévie de cette course pour lui, de cette marche pour lui, de l'accomplissement de son rêve pour lui. Le mot utilisé pour nous envelopper, littéralement nous entourer pour nous aveugler. Alors la question, c'est est-ce que je suis bien alerte aujourd'hui dans ma vie à la réalité du fait que le péché peut m'envelopper si facilement pour me faire dévier? Est-ce que je continue à courir vers le rêve de Dieu dans ma vie? Je parle des tout nouveaux et je parle des chrétiens de 10, 20, 30, 40 ans. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu as les yeux fixés sur Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu te lèves à chaque jour en te disant encore aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je veux te plaire, je veux te servir, tu as quelque chose pour moi, je veux te représenter, je veux accomplir, je veux parler pour toi, je veux être pour toi, je veux avoir les yeux sur toi. Est-ce que tu réalises que Jésus a accompli parfaitement l'œuvre de notre foi parce qu'il avait une vision de la joie qui lui était réservée pour ceux qui vont accomplir pour nous? C'est cette image que à la croix, Jésus avait une vision et un rêve pour toi et moi. Que de la croix, Jésus disait, je m'offre pour lui, je m'offre pour elle, je m'offre pour ceux qui vont croire en moi et pour ceux qui vont devenir l'expression du rêve de Dieu. Comprends-tu que notre vie chrétienne n'est pas Dieu qui est là pour accomplir et assouvir tous mes rêves et mes désirs, mais que nous sommes sauvés et remplis de son Saint-Esprit afin de remplir le cœur de Dieu de joie de voir ses fils et ses filles accomplir son rêve à chaque jour. Si dans les prochaines 10 secondes, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Amen », il y a un risque d'explosion sur cette estrade. Est-ce que tu aspires encore? Est-ce que tu désires encore? Est-ce que tu es encore disponible à dire au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, viens ». viens me conduire. Consolateur de Dieu, viens me conduire dans le rêve de Dieu pour ma journée, pour ma vie, pour cette saison de ma vie. J'ai discuté cette semaine avec un ami, un membre d'une équipe pastorale sur les différentes perceptions et positions des chrétiens qu'ils peuvent avoir sur ce qui est bibliquement et réellement la vie de l'Esprit. C'est quoi la vie de l'Esprit? Jésus nous enseigne qu'une des plus puissantes manifestations de l'action surnaturelle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans Jean 14, versets 16 et 17, « Et moi, je prierai le Père et je vous donnerai un autre consolateur. » Voulez-vous dire à voix haute avec moi « un autre consolateur » Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Le monde ne peut recevoir qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Est-ce que tu connais, est-ce que tu comprends vraiment ce que le consolateur veut accomplir en toi? Comment chaque jour, il veut te conduire dans le rêve que Jésus a pour toi aujourd'hui, dans la réalisation de ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui? C'est, vous le connaissez, il demeure en vous, il sera avec vous. Les quatre fois dans l'enseignement de Jean 13, 14, 15 et 16, où Jésus enseigne sur le Saint-Esprit, il décrit le Saint-Esprit comme le paraclétos, le consolateur, ce qu'on a découvert ensemble dans les dernières semaines. Ça veut dire celui qui se tient à côté. Je vais mourir et ressusciter, mais je vous envoie le Saint-Esprit, le consolateur. Il est là à chaque jour avec vous pour aider, pour convaincre, pour rappeler, pour guérir, pour porter, pour fortifier, pour révéler, pour consoler, pour relever, pour restaurer. Mais ici, Jésus adresse les disciples qui sont dévastés, qui sont perdus, ils sont attristés, ils sont découragés à la pensée qu'il vient de leur annoncer, je vais vous quitter. Il avait annoncé pendant 3 ans, je vais mourir et ressusciter, mais il dit, ne vous inquiétez pas, que vos cœurs ne se troublent pas, je vous fais la promesse que le Père va vous donner un autre consolateur. Lorsqu'il y a le mot, l'expression « un autre » dans le grec du Nouveau Testament, il y a deux mots qui sont utilisés. Le mot « allos », qui veut dire « un autre » comme exactement le même. Un autre exactement le même. Et le mot « hétéros », qui est un autre qui est complètement différent, qui n'est pas le même. C'est important de comprendre la nuance. Et je regarde dans vos yeux, je suis capable de regarder dans les yeux de 1000 personnes en même temps, simultanément, et je vois que vous ne comprenez pas vraiment. Alors, laissez-moi vous donner un exemple très, très terre-à-terre. Encore une fois, ne m'envoyez pas, il y a une image qui va apparaître à l'écran avec deux burgers. Alors, ne m'envoyez pas des courriels de Pasteur Claude à comparer cet esprit à des burgers. Relaxez, respirez par un instant. Je vais juste vous faire comprendre quelque chose sur le mot « un autre ». Lorsque Jésus dit « je vous renvoie un autre consolateur », un autre « allos » ou « hétéros », un autre. Alors c'est vraiment comme si vous preniez une bouchée dans le burger de ce côté-là qui est dégoûtant et vous faites « ah, ça, je veux pas de ça, j'en veux un autre ». Complètement différent, un autre, hétéros. Mais c'est l'autre mot, un autre, qui est allos, c'est je prends une bouchée de l'autre burger, le succulent qui est à côté, et j'en prends une bouchée, vous dites, oh, c'est tellement bon, j'en voudrais un autre. Je serais capable d'en manger un autre. Croyez-moi, je serais capable d'en manger un autre. Capable d'en manger un autre. Un exactement pareil, un fidèle, j'en veux un autre exactement pareil, fidèle à l'original. Comprends bien. Tu peux enlever les burgers rapidement, les gens à l'écran, parce que les gens fixent là-dessus là, en ce moment. Écoute-moi bien, c'est une des plus puissantes œuvres de l'Esprit, nous ramener à l'original. Un autre, le Saint, Jésus dit, je m'en vais, mais le Consolateur va vous ramener moi, va vous ramener mon cœur, mes rêves, ma destinée, ma volonté. À chaque jour, si tu t'ouvres à lui, tu lui demandes le Saint-Esprit, un autre pareil comme moi. Il va te ramener à l'original et t'empêcher de t'éloigner de Jésus, de l'original, de son cœur, de sa passion, et de son rêve, vous devriez dire « Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit va venir, il va annoncer les choses à venir. Tu sais, il y a tellement de choses. Dans Jean chapitre 16, il explique de cette façon, au verset 12. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi je vous dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tu ne peux pas porter tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Tu as besoin, j'ai encore plein de choses à vous dire. Vous ne pourriez pas les porter maintenant, mais le Saint-Esprit, ça veut dire que dans chaque saison de ta vie, Tu as besoin de dire, Saint-Esprit, parle, dirige-moi, conduis-moi. Et c'est assez miraculeux, extraordinaire, et c'est très court, c'est très dans notre vie tous les jours. C'est ce cœur qui dit, Saint-Esprit, dirige-moi dans la vérité. Ramène-moi à ce que Jésus a pour moi aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va prendre du cœur du Père et du cœur du Fils pour venir te le communiquer à toi. Il ne parlera pas de lui-même, mais il va annoncer des choses à venir. Il va annoncer la vision et le rêve de Jésus pour nous. Et ce rêve, cette vision de Jésus pour nous est à différents endroits dans les Écritures, mais on va regarder aujourd'hui à une conversation dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, entre Jésus et la Samaritaine, où son rêve est déployé. Tout le monde connaît le bon Samaritain, même des gens qui ne connaissent pas l'Évangile ont cette expression en tête, c'est « il est un bon Samaritain ». Mais ici, nous allons découvrir celle qu'on pourrait appeler la mauvaise Samaritaine. Parce que sa vie était infecte, sa vie était désespérée et en morceaux avant qu'elle connaisse le Seigneur. Et Jésus va nous donner, à cette femme, va donner la révélation des vrais et des faux adorateurs. Il y a deux aspects importants du contexte de cette révélation. C'est son positionnement et sa profondeur. Son positionnement, Jean chapitre 3, juste précédemment, le chapitre juste avant, Jésus parle avec Nicodème. Il parle avec le plus haut docteur théologien de la loi des Juifs de l'époque, et c'est avec lui qu'il aura cette conversation, tu dois naître de nouveau. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas et la vie éternelle. Toi qui es le plus grand théologien d'Israël, ne sais-tu pas que tu dois naître de nouveau? Et là, Jean chapitre 3, il est avec l'homme, un homme respecté, honoré, un homme pieux, un homme moral selon les plus hauts standards, la référence religieuse et morale de son époque. Et tout de suite après, au chapitre 4, il est avec la Samaritaine. Il est avec une femme, tout de suite après, qui est rejetée, qui est immorale, qui est irreligieuse, qui est jugée par tous, qui est méprisée au plus bas échelon moral de l'échelle religieuse ou sociale de l'époque. Et ça rappelle à chacun d'entre nous que personne n'est tellement pur et haut qu'il n'a pas besoin du Seigneur Jésus. Et personne n'est tellement perdu ou honteux qu'il pense être banni par le Seigneur Jésus. La profondeur est dans un fait intéressant. C'est que dans toutes les conversations que nous avons dans les quatre évangiles, le Saint-Esprit inspire les quatre évangiles. Dans toutes les conversations que Jésus a eues avec des gens et même avec ses disciples, celle-ci est la plus longue. La plus longue conversation de Jésus est avec une femme qui est irreligieuse, qui n'est pas intéressée, qui ne vient pas à lui, qui n'a aucun background, quel qu'il soit, qui ne comprend rien, où il se présente comme Seigneur et Sauveur. Et c'est très, très intéressant pour moi parce que dans notre monde chrétien moderne, la très grande majorité de ce qui prend place comme prédication, c'est des chrétiens qui se parlent entre nous. Avec le langage chrétien et nos affaires et nos trucs et nos débats et dans un langage que la majorité des gens qui ne connaissent pas Seigneur peuvent rien comprendre et en ligne c'est qui va avoir le plus de vues de chrétiens puis on se parle dans tous nos trucs à nous alors que Jésus son plus long discours la profondeur a été de se présenter à quelqu'un qui ne le connaissait pas et Jésus rêve encore de nous, une église qui est ancrée et attachée à sa mission. On va lire le début de cette conversation ensemble dans Jean chapitre 4. Et au verset 1, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris ce qu'il faisait et qu'il baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples, c'est important. Alors, il a quitté la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Et car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Jésus rêve d'une église qui est ancrée et attaché à sa mission. C'est très significatif que l'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit, nous rappelle que c'était les disciples qui baptisaient et non Jésus lui-même. Jésus rêvait d'une église où la préoccupation pour les âmes, la préoccupation pour ceux qui le baptisent, ceux qui passent de la mort à la vie, la passion et l'engagement et le service et la préoccupation pour les âmes n'est pas seulement l'affaire du pasteur ou de quelques personnes, mais où chaque personne, chaque chrétien qui vient le dimanche est conscient que notre mission, notre appel, chaque disciple de Jésus à ce cœur, à cette préoccupation, est ancré et attaché dans sa mission, les âmes, des hommes, des femmes qui ont besoin de lui. Lorsque vous voyez un baptême d'eau à Nouvelle Vie, des centaines de personnes qui passent par les eaux du baptême, une aussi précieuse que l'autre à la fois. Si vous êtes quelqu'un qui donnait, qui servait, qui priait, qui invitait, si vous êtes quelqu'un qui vous impliquait, ah bénémoine, si vous êtes quelqu'un qui invitait, qui témoignait, qui priait, vous avez une part. Vous avez une part. Vous faites partie de cette œuvre et de la mission, de la passion du Seigneur. Lorsqu'on a débuté l'Église, j'avais prêché un message à ce genre-là, disant, quel que soit où vous êtes impliqué dans l'Église, vous êtes aussi, je le crois profondément, c'est aussi important que celui qui prêche à l'avant, et vous avez une part dans l'œuvre extraordinaire du plus grand de tous les miracles des hommes et des femmes qui passent par les eaux du baptême. Et en début de semaine, j'arrive au bureau, et il y avait un monsieur qui était là, un chrétien qui faisait du bénévolat en conciergerie. Un monsieur super simple, super direct, puis il me dit, hey, Pasteur Claude, c'est-tu vrai, là, tu crois-tu vraiment ça dimanche, c'est ce que t'as dit que moi je passe le balai puis je passe la mop là à l'Église Nouvelle Vie, puis toi tu prêches en avant que c'est, on est tous importants l'un que l'autre. Et là moi j'ai dit, ben oui, absolument. Et là, pour le convaincre, on est dans le couloir en pleine semaine, je reprêche mon message au complet presque, et là je lui dis, écoute, lorsqu'il y a un baptême, là, la prochaine fois que tu vois quelqu'un être baptisé, tu te diras, hey, j'ai une part là-dedans, moi. Et il n'a pas tout à fait compris mon message, parce que quelques semaines ou mois plus tard, on a un autre baptême. Et quelques jours après, je le vois la semaine. Je dis, hey, Pasteur Claude, j'ai un baptême dimanche. Je disais à ma femme, c'est moi qui ai fait ça. Il avait amené un cran plus loin, mais il y a quelque chose de profondément vrai là-dedans. Nous sommes tous passionnés, impliqués, par, nous sommes tous participants, nous sommes tous célébrants, donnants, servants, sacrifiants pour la... Vous devriez applaudir. Nous sommes tous là. Animé, ancré dans sa passion à lui. Jésus rêve d'une église ancrée et attachée qui dit « il faut que ». C'est les mots les plus puissants de ce texte. « Il faut que je passe par la Samarie ». C'était pas une obligation géographique. En fait, c'était le contraire. Les Juifs de l'époque avaient une détestation qui était un racisme qui était générationnel contre les Samaritains, qu'ils considéraient comme les plus impurs des impurs. C'était courant, ça fait partie de toute la littérature de l'époque, que le Juif pharisianique, lorsqu'il avait physiquement à se rendre de l'autre côté, préférait faire plusieurs jours de voyagement de plus pour ne même pas mettre le pied sur le sol maudit des Samaritains. Il y a même un commentateur qui dit que les plus pharisiens, les plus purs, on les appelait les pharisiens avec ecchymose. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils marchaient dans toute leur splendeur religieuse, et si par malheur leurs yeux croisaient une femme samaritaine, ils se fermaient les yeux et fonçaient dans toutes sortes de choses dans l'oreille des ecchymoses. C'était tellement impensable. C'était tellement quelque chose qui était impensable pour Jésus d'être là. Mais il fallait que le grec, l'expression grecque dit que c'était une nécessité, que c'était requis, que ce n'est pas une obligation géographique. C'était un rendez-vous divin. C'était sa passion. C'était sa mission. C'était une personne. C'était nécessaire. C'était requis. Pour qui? Pour qui? Pour une femme samaritaine. Les femmes, à l'époque, étaient méprisées. Mais la femme samaritaine était dans, au plus, dans, intouchable, impensable pour Jésus d'être là. Elle n'est d'aucune valeur, aux yeux de tellement. Pourquoi est-ce que c'est, il faut qu'il s'arrête en Samarie? Parce qu'une samaritaine, une femme d'une race que les Juifs considèrent comme inférieure, une femme immorale, selon n'importe quel standard, mais à l'époque, 5 maris, 5 divorces, elle était avec un 6e. Une femme qui vient chercher de l'eau à midi. Pourquoi? Parce que toutes les femmes viennent le matin, mais elle doit être là à midi parce que toutes les autres femmes la méprisent, parce qu'elle est le sujet de la honte des colibets et peut-être même des menaces des autres femmes. Une femme qui avait eu un cœur brisé 1000 fois par 5 divorces. Les historiens nous disent que les maris pouvaient divorcer leur femme pour n'importe quelle raison à cette époque-là. Elle s'était retrouvée, elle avait donné son cœur, elle s'était faite piétiner fois après fois après fois. Puis une des choses qui, une femme qui s'attend plus à rien de la vie, s'attend plus à rien de personne, n'a pas d'importance, n'a aucune valeur pour qui que ce soit. Et une des choses qui me touche profondément, c'est que c'est une femme qui ne cherchait pas Jésus. Nicodème, dans le chapitre précédent, vient et cherche Jésus. Elle ne le cherchait pas. Elle n'a aucun intérêt. Toi et moi sommes appelés à présenter Jésus, sommes appelés à rejoindre des hommes et des femmes dans cette province qui ne le cherchent pas, qui ne savent même pas qu'ils ont besoin de lui. Mais même s'ils ne le cherchent pas, Jésus les cherche à travers nous. Jésus les cherche à travers nous. Pourquoi avons-nous besoin du Consolateur, du Paraclétos, qui demeurera toujours avec nous? L'autre consolateur qui nous ramène à l'original, ramène à son cœur pour nous ramener au cœur, à la patience, à la passion, à l'attention de Jésus pour les Samaritaines qu'il met sur notre chemin. Parce que nous aussi, nous pouvons être fatigués du voyage. Je trouve fabuleux l'éternel et le divin, le plan éternel et divin qui se mixe si normalement dans ce texte avec l'humanité. Jésus était fatigué du voyage. Lorsqu'on creuse un peu, on lit les versets précédents, il a quitté la Judée, retourne en Galilée, arrive dans une ville de Samarie nommée Sychar, il est sur le bord du puits et la majorité des historiens ont mesuré une distance d'une vingtaine de kilomètres qu'il a marché ce jour-là sous un soleil de plomb. C'est Jésus, c'est l'omniscient, tout-puissant, omnipotent. Il n'est pas en manque de ressources, il est en train de nous donner un portrait prophétique. Écoutez bien. L'œuvre de la foi et du royaume de Dieu va être accomplie par des hommes et des femmes occupés et fatigués. Des hommes et des femmes qui ont des soucis, qui ont des fardeaux. J'étais avec Chantal et moi, on soupait avec des amis récemment, pasteur. Ça fait 40 ans qu'on se connaît, qu'on sert le Seigneur dans la province du Québec. Il connaissait une nouvelle vie, bien sûr. Ça fait 40 ans qu'on est amis. Mais je parlais avec lui, puis il me dit, tu sais, Claude, il est arrivé quelque chose pendant je connaissais une nouvelle vie, on avait vu la croissance, puis tout ça, mais il dit, pendant la pandémie, je me suis mis à regarder toutes les réunions en ligne, puis les prédications, la louange, là, c'est super. Mais ce qui m'a frappé, là, c'est que ce que vous appelez le vie d'église, là, tout ce que l'église fait, à toutes les semaines, il y a l'organisme d'Action Nouvelle Vie, les 15 000 personnes par mois, les territoires autochtones, l'organisme qui soutient le retour à l'école, l'organisme qui soutient le 21-59, l'Ukraine, Haïti, là, et pendant qu'il le disait, j'étais de plus en plus fatigué, juste à l'entendre, là. Puis il me dit littéralement, il dit, je ne suis pas fatigué. Bien sûr qu'il y a une raison pour laquelle Jésus est fatigué sur le bord du puits. Le divin va passer par une humanité, par nous qui avons tous ces autres poids que nous portons, toutes ces autres choses. Il y a une usure humaine, il peut y avoir une fatigue humaine, il peut y avoir une déception humaine. Mais c'est là que j'ai besoin, que tu as besoin du paraclétos, de l'Esprit de Dieu qui va me ramener au cœur de Jésus, à la passion de Jésus, à l'énergie de Jésus, à la passion d'aller chercher une autre personne sur le bord du puits. Pourquoi avons-nous besoin du consolateur? Parce que nous avons, nous aussi, besoin d'aller en ville. Et je vais vous relire le verset 8, Jean 4, 8. Et les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres au Costco. C'est écrit dans ma Bible ici, dans Jean chapitre 4. Pourquoi est-ce qu'on a besoin du consolateur? Parce que nous avons besoin, nous aussi, d'aller acheter des vivres au Costco. Ce n'était pas un problème de ressources. Vous comprenez que Jésus, c'est pas lorsqu'ils sont partis chercher des vivres, c'est pas Jésus peut faire apparaître il avait fait plusieurs fois, peut faire apparaître sur le champ un banquet pour 10 000 personnes et une fontaine de San Pellegrino et de Perrier comme il veut. Non, il y a un message. Jésus est en train d'annoncer. Jésus annonçait son rêve. Une église composée d'hommes et de femmes, normales, avec des familles, des obligations, des épiceries à faire dont le coût monte en 2022. Qui coûte de plus en plus cher, des retours à l'école, des effets scolaires à débourser, des prêts étudiants à payer, des loyers, des taux d'hypothèque qui montent, qui ont des choses de la vie courante qui pèsent, mais qui, par l'Esprit de Dieu, disent tout ça, toutes ces responsabilités sont là, mais je dois garder une part de mon cœur pour l'appel de Dieu, pour le service de Dieu, pour les âmes, pour servir le Seigneur. Quelqu'un devrait dire amen. Il faut que je me donne, que je fasse ma part pour qu'une seule femme de plus, une seule personne de plus, à Longueuil ou à La Prairie ou à Châteauguay ou à Drummondville ou dans un territoire autochtone ou dans une ville où on n'a pas encore implanté une église, il y a une personne de plus qui a besoin du Seigneur Jésus. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il va prendre du cœur du Père et il va nous donner le cœur du Père pour que sa mission devienne ma mission. Il le met dans mon cœur et sa mission devient la mienne. Une église dont Jésus rêve, c'est toi et moi, une église qui n'arrête jamais, jamais d'aimer les âmes. Pas juste en parole, mais en action et en passion. Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus nous renouvelle et nous ramène toujours en Samarie. Nous ramène toujours à quelqu'un, à un homme qui est oublié, à une femme qui est perdue, à un jeune qui est captif. Nous ramène toujours à un rétrograde. Nous ramène toujours à une ville, une communauté qui a besoin de lui. Il me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi, dit Jésus, et le Saint-Esprit va vous le donner, va vous le communiquer. Il va vous annoncer les choses à venir. Et vous n'allez jamais manquer de rien lorsque vous restez dans ce cœur. C'est ce qui est arrivé. Vous comprenez, Nouvelle Vie, c'est ce qui est arrivé avec la pandémie. Lorsque j'étais dans ce séminaire, ce podcast, et que j'écoutais toutes ces églises partout à travers la nation qui parlaient de pertes et de faillites et d'échecs et de diminution et de, j'étais là dans un moment d'adoration et de reconnaissance. Le Saint-Esprit, au début de la pandémie, comme depuis 29 ans, nous a dit, voici maintenant, il y a une pandémie, mais vous gardez votre cœur et vos yeux sur les armes. Alors, je vais prendre du cœur du Père, je vais le mettre dans votre cœur et je vais pourvoir miraculeusement au milieu des pires ténèbres, je vais vous faire connaître votre meilleure croissance. Et je vous annonce qu'alors qu'on sort de la pandémie, l'Esprit de Dieu annonce des choses à venir dont on va s'emparer ensemble. Est-ce que vous pouvez dire un vrai grand amen dans ce lieu ce matin? Est-ce que vous le recevez? Jésus rêvait d'une église ancrée et attachée à sa mission. Et il rêvait d'une église dont l'appel détermine ce qui va attirer notre attention et notre altitude. Pas notre attitude seulement, notre altitude. On continue à lire au verset 8. Ils sont allés chercher des vivres à la ville, au Costco, verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi, qui suis une femme samaritaine? Les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais, c'est tellement beau, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné des eaux vives. » Seigneur, lui dit la femme, « T'as rien pour puiser. Le puits est profond. » D'où aurais-tu donc tiré cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui ou celle qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est assez, Jésus nous donne ici, Jésus rêvait d'une église qui comprend que notre appel va déterminer sur quoi on garde notre attention et à quelle altitude nous allons voler. Vous savez, il y a des dindons, des dindes, et il y a des aigles. Les deux ont des ailes, les deux ont du plumage, les deux se font à les ailes, mais ils ne volent pas à la même. La seule différence, c'est l'altitude. Je le dis avec douceur, je ne regarde personne, mais il y a un christianisme dindon puis un christianisme aigle, et la différence, c'est à quelle altitude tu voles. Jésus vole à une certaine altitude avec cette femme. C'est très, très important dans son approche avec elle. Et alors qu'il parle à une femme irreligieuse, cynique, indifférente, ignorante des réalités spirituelles, elle n'a aucune idée, elle n'a aucun intérêt. Mais Jésus nous met en garde et nous donne un modèle de comment notre appel doit déterminer sur quoi nous allons focaliser notre attention et notre altitude. Il y a trois pièges qu'elle essaie, dans lesquels elle essaie de l'empêtrer. Et Jésus va voler, il va avoir une attitude comme nous devons avoir au-dessus. Il va voler au-dessus des préjugés et des provocations, au-dessus de la petitesse de la perspective de cette femme et au-dessus du poids du passé religieux. Jésus va voler au-dessus. Il nous donne le modèle de comment quelle est l'altitude que nous devons avoir. Rêve d'une église dont l'attention est tellement sur les âmes qui ont besoin de lui, qui volent une certaine altitude spirituelle dans leur interaction avec la société, avec ton voisin, avec ta famille, en ligne, sur les médias sociaux, dans comment tu représentes Dieu. Nous devons voler et demeurer comme Jésus au-dessus des préjugés et des provocations. Elle lui dit, comment toi, tout de suite, elle va tout de suite dans tous les conflits sociaux de l'époque, comme un homme, une femme, les droits des hommes, les droits des femmes, comment toi, un homme, va parler à moi, une femme, toi, un juif, religieux, social, classe sociale, moi, un samaritain, et c'est spécifié, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. C'était tellement évident, c'était tellement impensable, ils étaient tellement séparés et en guerre, que lorsque les disciples reviennent du Costco, et qu'ils voient Jésus en train de parler avec une Samaritaine, ils sont horrifiés. Ça va ruiner la campagne électorale au complet. Si quelqu'un met ça sur Facebook, on est fini. Si quelqu'un met « Jésus, on veut faire de toi un messie », si, mais quelqu'un poste ça. Arrêtez avec vos cellulaires. Si quelqu'un poste ça sur Facebook, on est mort. Au verset 27, c'est savoureux. Lorsqu'ils arrivèrent, les disciples furent étonnés de ce qu'ils parlaient avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» On n'ose même pas y en parler. C'est tellement... On va faire comme... Là. On va faire comme si c'était pas arrivé. On va faire comme si c'était pas arrivé. Il parle avec une Samaritaine. Et Jésus refuse. Nous devons être au-dessus des préjugés et des provocations. Remarquez bien la dynamique. La femme dit « Jésus lui répondit. La femme dit, Jésus lui répondit. C'était un des plus grands défis que nous avons eu à tenir et à combattre pendant la pandémie. Et en sortant de la pandémie, il y a tellement d'églises, de croyants et de prédicateurs qui se sont pris, se sont empêtrés, se sont enlisés en mettant leur attention sur des sujets de basse altitude spirituelle. Nous sommes appelés à garder nos yeux sur notre mission, sur notre appel. C'est ça qui va déterminer notre attention. Juif, samaritain, trop woke, pas assez woke, une campagne, une autre, Trump, Biden, on arrive en campagne électorale ici aujourd'hui même, au Québec, comme à chaque campagne électorale, je vous dis aujourd'hui, étudiez ce qui prend place, informez-vous, priez, réfléchissez si vous sentez dirigé de vous impliquer, on a besoin de croyants qui s'impliquent également, faites-le avec respect, allez voter. C'est pas un privilège, c'est pas même un droit, c'est un devoir. Mais une fois que vous avez fait tout ça, ne vous laissez pas prendre et empêtrer cet automne dans d'autres choses que nous avons une mission, une altitude de faire connaître le Seigneur Jésus. C'est ça qui est notre mission. Et à refuser. Attention, nous sommes dans peut-être la pire époque de l'humanité pour les provocations. Des provocateurs professionnels, provocateurs en chef, provocateurs continuellement essayant d'attirer les chrétiens vers les choses qui sont d'aucune importance. Gardez vos yeux, vos bouches sur le témoignage de Jésus. Il y a de plus en plus d'hommes, je remarque de plus en plus de personnes qui viennent à mon gym, qui sont au même gym que moi. Et il y a un jeune homme récemment qui vient, puis vraiment nouveau, et s'approche de moi puis dit, vous êtes, il dit, vous êtes pasteur Nouvelle Vie. Je dis, pasteur Claude, il savait même pas mon nom, j'étais juste pasteur Nouvelle Vie. Et c'était un rigolo, il est ici ce matin à la première ou la deuxième, j'ai dit, je vais raconter celle-là, parce que c'était un petit rigolo, il me dit, hey, pasteur Claude, on dirait que vous avez plus chaud le dimanche qu'ici au gym. Preuve qu'il était peut-être pas sauvé à ce moment-là. C'est pas vraiment des nouveaux. Mais me dit, je vous dis, pourquoi moi je suis Nouvelle Vie, moi je suis Nouvelle Vie à fond, là, je suis Nouvelle Vie à la planche. Comment ça? Ben, dis-moi, j'ai accepté le Seigneur, pourquoi? Ben, comment? Il dit, c'est à cause de mon frère. Comment ça, ton frère? Oui, mon frère. Il dit, mon frère, toute sa vie, mon frère, t'as fait deux tentatives de suicide, mon frère, il était toujours, tentative de suicide. Toxicomanie, il était comme habité par la mort, mon frère, tout le monde a essayé tout. Puis il dit, il y a 3 ans, il y a quelqu'un, un de ses amis, qui l'a invité à notre église. Puis il est venu à l'église, on l'a vu changer. Il dit, ça fait 3 ans qu'il est drette, ça fait 3 ans qu'il est sorti de tout, il est clean, il a retourné aux études, il vient d'avoir son diplôme. Comprenez-vous? Parlez-leur de la vie abondante, parlez-leur des eaux vives, parle-lui de ton témoignage, parle-lui de la paix, parle-lui de ce que Jésus a fait pour toi. Il a volé au-dessus des provocations, au-dessus même de la petitesse de la perspective humaine. Je trouve ça extraordinaire que ça soit là dans la parole de Dieu. Jésus, verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire, il t'aurait donné des eaux vives. » Nous, on trouve ça, qui connaissons le Seigneur, tu lis un texte comme ça, moi j'ai des frissons, j'imagine Ben Newton en train de le chanter, les eaux vives, comment, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Mais cette femme-là a aucune perspective, quelle qu'elle soit. Et lui, c'est un envolé, tu peux entendre toute l'orchestre qui joue en arrière. Je lui donnerai des eaux vives. Puis elle dit, ben, Seigneur, comment tu vas tirer? Le puits est cru, puis t'as même pas de chaudière. Avez-vous déjà eu ce sentiment face à quelqu'un, face à un ami, membre de votre famille, province de Québec, qu'on parle de choses qui sont tellement précieuses et importantes pour nous, et c'est comme s'il ne boit rien, ne comprenne rien. Il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose qu'à moins que l'Esprit de Dieu te ramène, il y a quelque chose en nous qui veut juste se retirer. Et je veux juste nous rappeler que cette femme-là n'est pas, Jésus dit, cette femme-là n'est pas son ennemi, n'est pas mon ennemi. Elle est aveuglée par notre ennemi. Mais je suis la lumière, je suis là. Je vais continuer à aimer, à prier, à parler, à témoigner parce que Jésus va agir. Quelqu'un devrait dire oui. Il refuse toutes ces provocations. Il refuse, il répond, je suis la vie. Il refuse. Jésus rêve, je termine, d'une église qui annonce l'abondance, les eaux vives. Et une église qui accepte les réalités, mais n'abandonne jamais sur ce que Dieu peut faire. Alors, il parle avec elle, il échange avec elle, et il lui lance encore une fois, si tu veux, je vais te donner une eau qui va tenir en toi, une source qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif. Et que je ne viens plus ici, verset 15. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » C'est très, très drôle parce qu'elle dit, « Ah, Seigneur, lui dit la femme, je perçois que tu es prophète. » Il y a une réalité. Cette femme est loin de Dieu. Dans les standards de l'époque, cette femme est immorale, elle est perdue, elle est tellement loin. Et sans l'Esprit de Dieu, tout en l'être humain, en chacun d'entre nous, le réflexe chrétien est de se retirer, de commencer à mettre des étiquettes sur les gens. Lui, c'est trop tard, lui, il est intouchable, lui, il n'est pas intéressé, lui, il est. Mais Jésus rêve d'une église. Rêve d'un peuple que, quelles que soient les réalités qui sont là, savent qu'il y a une autre réalité, que le Saint-Esprit est celui qui convainc et qu'il agit, et que lorsque moi je ne vois rien, il fait une œuvre dans les cœurs, et rien ne va m'arrêter d'aimer, rien ne va m'arrêter de témoigner, rien ne va m'arrêter d'accueillir, rien ne va m'arrêter de reprendre. Quelqu'un devrait dire oui. Je parle pastoralement en arrivant à la fin du message. Juste pour dire un mot pastoral. J'avais même pas préparé ça, mais ce matin, dans les derniers jours en prière, j'avais vraiment cette pensée. Alors que la pandémie est terminée, on revient en présentiel et tout, il y a plusieurs personnes qui avaient comme arrêté de venir à l'église et qui reviennent. Et j'ai parlé avec plusieurs, ça m'a beaucoup, beaucoup secoué. Il y a plusieurs chrétiens qui reviennent qui m'ont dit, tu sais, j'ai trouvé ça difficile. C'est vrai que j'étais parti, là, mais je suis revenu, puis il y a des chrétiens un petit peu le nez en l'air qui les accueillent, genre, « Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. » Attention de ne pas être le frère du fils prodigue qui boude dans le coin lorsqu'il revient. Est-ce que je peux dire ceci? Le cœur de Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Je veux dire à qui que ce soit qui s'est éloigné, nos bras sont ouverts. Reviens. Reviens dans l'état que tu reviens. Reviens avec tous les problèmes. Reviens avec les manquements. Reviens dans les bras de Dieu. Alors que rien ne paraissait, Jean 4, 28, la femme ayant laissé sa cruche, elle n'a rien montré, il semble qu'il n'y a rien qui entre. S'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, ce que j'ai fait. C'est ce qu'elle disait, elle dit, il sait tout de moi. Je suis venu à lui en mentant, je suis venu à lui en mentant, il savait tout de moi et il m'aime. Il savait tout de moi et il m'accepte. Il savait tout de moi et il m'offre sa vie. Ne serait-ce point le Christ? Alors, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Et si vous connaissez le reste, la Bible nous dit qu'elle est allée dans la ville. Jésus a dit, une moisson qui est blanche, alors que son témoignage a commencé à résonner dans la ville. Une personne à la fois. Et la ville entière est venue vers lui. Puis on dit, on vient pas seulement, on ne croit plus maintenant seulement à cause de ce que tu nous as dit, mais on a découvert pour nous-mêmes que tu es le Fils de Dieu. La question ultime, c'est, est-ce que je vais être disponible encore? Est-ce que tu es disponible cet automne, maintenant, à dire à nouveau, Saint-Esprit, viens te servir de moi. Viens me donner le cœur de Jésus pour les Samaritaines, les Samaritains que tu vas mettre sur mon chemin. Dimanche passé, j'invite les musiciens à s'approcher. Dimanche passé, j'étais en vacances avec Chantal et avec des amis et des membres de leur famille. 10 jours de vacances en Floride. On était bénis, on a fait tout ce qu'on fait en Floride. On a eu la chance d'aller sur un bateau, on était à la plage, on a trop mangé, on a fait tout ce qu'il faut faire pendant les vacances. Je suis allé au gym 8 fois, j'ai pris 8 livres. Il y a quelque chose là-dedans là, qui marche pas. Vraiment ça. Et dimanche, nous, on va à l'église. Fait qu'on s'en va à l'église dimanche, mais je suis en vacances. C'est quand même relaxant pour un pasteur. Quand je suis en vacances, pas de prédication à faire, je vais dans une église que personne ne connaît. On s'en va à l'église pour louer Dieu. Il y a un côté relax. Et je suis en vacances. On s'en va à l'église avec la famille, avec nos amis et leur famille. Et en préparation pour aller à l'église, il y a une pensée que le Seigneur dépose sur mon cœur. Tu vas prier avec quelqu'un à l'église. Il y a un réflexe en moi qui dit, ben, je suis en vacances. Mais il y a... Combien sont reconnaissants que le Saint-Esprit est jamais en vacances, que Jésus est jamais en vacances, que toujours sa main. Juste cette pensée-là, tu vas prier avec un couple, tu vas prier avec quelqu'un. On arrive à l'église et le worship, bonjour, j'étais avec nos amis Chantal là. Et le worship commence. Un chant. Après un chant, il y a un couple qui arrive devant nous. Il y a plein de monde, une centaine de personnes dans l'église. Beau worship, belle louange. Le couple, il est là. Et là, moi, c'est eux. C'est avec eux autres que tu vas aller prier. Et peut-être que vous, vous êtes tellement spirituel que ça aurait été facile pour vous. Vous auriez dit, ben oui, c'est sûr. J'aurais flowé. Mais moi, il y a comme toutes sortes de pensées. Regardez-moi pas comme ça. Il y a toutes sortes de pensées humaines. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je vais avoir l'air? Qu'est-ce que tout à coup que? Puis voyons donc, puis c'est-tu toi? Puis c'est-tu ton imagination? Et puis, je suis en vacances! Et il y a tout ça. Mais là, il y a un deuxième chant. Et la madame est là, puis elle prend, elle met la main autour de l'épaule de son mari. Puis je suis comme, oh. Je vais, excusez. Fait que là, excusez, j'entends, tu t'en vas, excusez. Toute la famille qui est là, tout le long, je me dis, Emma, tu peux avoir l'air fou, là, tu vois, fait que c'est que tu peux te faire revirer de base, ça va être le retour le plus gênant de ta vie, etc., etc., mais j'y vais, excusez. J'arrive au monsieur, c'est un grand gaillard, super sérieux, très intense. J'ai dit, bonjour, I'm a pastor from Canada on vacation. Je suis un pasteur du Canada en vacances, mais Dieu m'a mis à cœur de prier pour vous. Qu'il y a quelque chose de spécifique qui se passe dans votre vie, puis il m'a envoyé prier pour vous. Le monsieur, instantanément, pouf, les épaules se mettent à pleurer. Je dis, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui se passe? Il dit, hier soir, 2h du matin, j'ai reçu l'appel. Mon cousin qui est en fait plus proche que mon frère, on a grandi ensemble, c'est comme mon frère, plus proche que mon frère, puis il est choking up. Il sanglote en me le disant. Est mort dans un accident de bateau hier soir. Ils m'ont appris son décès. J'ai passé la nuit là-dedans. Puis ce matin, j'ai dit à ma femme, je ne veux même pas aller à l'église. Je ne veux même pas. Je suis tellement à l'envers. Elle a dit, non, on va aller à l'église. Puis vous, là, vous venez, vous dites que Dieu vous a envoyé pour prier pour moi. Je dis, oui, je peux-tu prier pour vous? Comprenez-vous que c'est un homme, c'est un Samaritain sur le bord du puits. Il a juste besoin. Juste besoin que Dieu lui rappelle qu'il l'aime, qu'il est là. Alors, j'ai pris leurs mains, commencé à prier pour eux, les deux qui pleurent. Il y a des choses qui me marquent, moi. J'ai été marqué parce que pendant que je tenais leurs mains, il y avait leurs larmes qui me tombaient sur nos mains. Puis le monsieur, pendant que je priais, il disait, ouais, that's incredible. Et après, thank you. Je dis, je vais prier pour vous, thank you. Et lui, il dit, ça fait des années que j'étais en l'église. Ils me disent tout le temps, Dieu est tout personnel, Dieu est tout seul. Mais il dit, là, c'est pour moi, là, c'est pour moi que vous avez prié. Thank you. Je dis, thank you, je retournais à ma place. Je t'ai béni, mais voici ce qui m'habite. Pas dans la culpabilité, mais voici ce qui m'habite avec une détermination dans mon cœur depuis dimanche passé. C'est combien d'autres rendez-vous j'ai manqué? Combien d'autres Samaritains sur le bord du puits, il fallait que je m'arrête, mais j'ai eu peur, ou j'ai pas voulu, ou j'étais trop pressé, ou j'étais trop fier, ou j'étais trop orgueilleux, ou j'avais peur d'avoir l'air, ou j'étais juste trop pris par mes affaires, ou trop pris dans ma tête. Et sans culpabilité, mais je voudrais juste vous demander, est-ce que vous avez à cœur de vous mettre debout à côté de moi en esprit et de dire, Seigneur, je suis disponible. Sers-toi de nous. Saint-Esprit, viens prendre du cœur du Père et du Fils et viens le mettre en moi, Seigneur, pour chaque Samaritaine que tu vas mettre sur notre chemin. Nous voici, Seigneur, nous voulons que tu te serves de nous pour l'expression de ton rêve et de ton cœur, une personne à la fois. Et l'Église Nouvelle Vie dit un dernier grand Amen et Amen et Amen et Amen et Amen. Un appel très spécifique sur mon cœur pendant toute la semaine. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu? Je sais, partez pas tout de suite, donnez-vous une minute. Je sais qu'on a nos propres besoins, je sais qu'on a nos combats, je sais qu'on a. Mais ce matin, est-ce que vous pourriez répondre à cet appel avec moi? Moi, j'y réponds en disant, Seigneur, redonne-moi ton cœur. Est-ce que vous êtes libre en ce moment de tendre vos mains vers Dieu et dire, Seigneur, donne-moi ton cœur à nouveau? Saint-Esprit, je veux que tu me viens me recommuniquer le cœur de Dieu, les choses à venir, les personnes que tu veux mettre sur mon chemin. Et avec douceur et amour, j'avais à cœur de vous dire, et je le fais pour moi-même, les personnes qui semblent tellement loin, tellement intouchables, tellement on a tout fait, on a tout dit, on a tout essayé, que c'est particulier, mais c'est presque, ça fait juste moins mal de même pas y penser. Mais Dieu dit, viens à
Amène cette personne devant moi. Tu ne sais pas l'œuvre que je suis en train de faire dans leur cœur. Tu ne sais pas ce que je fais en eux. Tu ne sais pas déjà. Alors, voulez-vous juste tendre vos mains et même commencer. Le Saint-Esprit déjà vous met des personnes à cœur, des gens pour qui il vous appelle à vous tenir et à prier et à croire. Et je ne nie pas une réalité, mais il y a une autre réalité qui est celle de la puissance infinie de l'Esprit de Dieu pour convaincre. Alors, je te donne mon cœur ce matin, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur pour toi, Jésus. Tendez vos mains vers Dieu. Laissez-moi entendre des centaines de voix. Juste lever vraiment vos voix vers Dieu. Dis, Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, redonne-moi ton cœur. Seigneur, je veux voler à une autre altitude. Seigneur, je veux être l'expression de ton rêve. Je te donne mon cœur, Seigneur Jésus.